Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le roi de Jordanie Abdallah II sont arrivés ce dimanche dans la capitale irakienne Bagdad en vue de la tenue d'un sommet tripartite entre les trois pays. Un communiqué publié ultérieurement par la présidence irakienne indique que Salah et el-Sissi ont eu un entretien bilatéral, soulignant que cette visite est une démarche importante et majeure de soutien à l'Irak et de renforcement des relations bilatérales. Est-ce que ce sommet est un sommet contre la résistance, comme le veulent faire croire les médias mainstream?
Alors, effectivement, il y a deux niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture pourrait laisser entendre que ce sommet tripartite, dont c'est la troisième édition et dont la deuxième édition s'est tenue aux États-Unis, hein, rappelons-le, participe effectivement d'une espèce de front alternatif à la résistance, dans le sens où si on examine les participants, dont la Jordanie a signé quand même un contrat, un accord, un traité avec les États-Unis en mars dernier, permettant à ces derniers donc d'occuper le pays et d'utiliser le pays comme base essentiellement militaire, hein, d'avoir accès à l'espace aérien, mais aussi mettre leurs troupes, hein, en masse. Donc on pourrait penser que si la situation devenait intenable pour les Américains en Irak, ils ont cette base de repli. Les Égyptiens, bah écoutez, les Égyptiens sont avant tout alignés avec l'Arabie Saoudite depuis toujours, même s'il y a quelques petits problèmes avec les Émiratis ici et là. On pourrait penser effectivement que l'armée égyptienne, qui est quand même une armée régionalement très importante, pourrait être à un moment donné, si je veux dire, enrôlée dans une espèce d'alliance parallèle à celle de la résistance. Et puis, ben, précisons-le, la personne qui va assister pour l'Irak à ce sommet tripartite est le président kurde. Les Kurdes étant très proches des Américains, on peut penser en tout cas que les premiers informés des résultats de ce sommet tripartite seront les Américains, à n'en pas douter. Maintenant, on peut penser aussi que dans le cadre de la crise sanitaire mondiale, il s'agit aussi tout simplement de renforcer des accords commerciaux, investissements, et d'essayer dans ce sens, pour les parties prenantes, d'alléger la pression au sein de leur propre pays, au niveau tant économique que sanitaire, humanitaire, pour s'assurer que, ben, si je peux dire, les populations ne manquent de rien. C'est difficile à dire comme ça, mais enfin, il y a quand même le fait que l'Égypte, le président égyptien, par exemple, n'a pas, depuis plusieurs décennies, visité l'Irak. Donc ça, c'est assez significatif. Que aussi le roi de Jordanie doit se rendre cette semaine à Washington, certainement pour des consultations qui auront certainement un volet sécuritaire. Voilà. C'est difficile à cette conjoncture de dire que ce sommet tripartite a une vocation à être anti-résistance, mais on ne peut s'empêcher de penser que voilà, s'il y avait matière à travailler avec les forces authentiques de la région, pourquoi ne pas aller voir les directions de la résistance et voir s'il y a, en tout cas, sur certains dossiers, dont des dossiers, encore une fois, d'ordre purement humanitaire, économique, investissement, développement régional, des points communs. Ce n'est pas le cas, visiblement. Ce qui laisse entendre quelque part qu'il y a un volet sécuritaire et que ce volet sécuritaire ne peut être perçu et interprété que comme une alternative, voire une encoche à l'encontre de la résistance. C'est mon avis. Bah, si vous faites référence au Premier ministre irakien, c'est difficile d'aller dans ce sens-là, puisqu'il est quand même, enfin, et ce sont les faits qui parlent, hein, celui qui a plus ou moins diligenté des manœuvres un petit peu perverses et tordues à l'encontre des Hached. Visiblement, ce Premier ministre n'a pas de soutien populaire, il est plus ou moins, comment dirais-je, proche des Américains, il faut quand même le dire. Il ne se représentera pas en octobre, enfin en tout cas, il n'aura pas la majorité être reconduit, ça va sans dire, enfin, en tout cas si les élections ont bien lieu en octobre. Donc, on a aussi un roi en Jordanie qui est quand même assez fragilisé, qui a fait l'objet d'une tentative de putsch, enfin de coup du palace, si je puis dire, récemment, et un président égyptien qui, pour des raisons portant sur ses conflits avec l'Éthiopie et le Soudan, avec cette controverse sur le barrage de la Renaissance. On apprend que les Turcs vont construire un canal qui, de toute évidence, va mettre à mal le monopole du canal de Suez, qui est une des sources de revenus essentielles pour l'Égypte avec le tourisme. Le tourisme est mort en Égypte à l'heure où on parle. Est-ce que le président égyptien a beaucoup de manœuvres, de liberté de manœuvre? J'en doute. Donc, on a affaire à quand même trois personnages. Ils sont chacun dans leur contexte respectif politiquement fragilisés. Et qui dit quelqu'un politiquement fragilisé, dit quelqu'un qui commencera à regarder toutes les options qui s'offrent à lui, même les plus, enfin, celles qui vont à l'encontre des intérêts de la stabilité de la région et à l'encontre des intérêts de sa propre, enfin, de sa propre population. Donc, c'est dans ce contexte-là, c'est surtout de voir le contexte à ce moment T, politiquement parlant, qui s'applique à ses participants. Ce sont des gens qui n'ont pas vocation à, comment dirais-je, être forcément en position de force à l'échelle régionale et je dirais même dans leur capacité à continuer à exercer le pouvoir sur le long terme. Donc, peut-être que l'idée, c'est derrière ce sommet tripartite, se serrer les coudes et essayer de faire en sorte que cette coopération, cette synergie, pour peu qu'elle puisse être développée sur le moyen long terme, leur permettre à chacun de préserver leurs intérêts bien compris.